Je vous invite de nouveau à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que tu te révèles à nous. Merci parce que tu interviens dans notre vie pour nous venir en aide. Que ce soit une aide par rapport à des difficultés, une aide par rapport à la santé, ou alors une aide pour nous attirer à toi et nous rendre plus proches de toi. Merci pour ta parole qui est une source de consolation, d'encouragement, mais aussi d'interpellation. Nous te demandons d'agir par ce temps où nous sommes particulièrement à l'écoute de ta parole, que ton esprit puisse nous ouvrir l'intelligence et le cœur pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire. Nous te prions aussi pour les enfants, pour ceux qui les prennent en charge, ceux qui les enseignent, que tu puisses les guider sur ce chemin avec toi, cette marche avec toi. Que nous puissions ensemble, en Église, entre frères et sœurs, être édifiés par toi, mais aussi par les uns et les autres. Au nom de Jésus, amen. Alors normalement, il y a mon diapo. Voilà, c'est la première diapo. Cette pièce vous rappelle-t-elle quelque chose ? Personnellement, cette pièce de 1 franc, alors peut-être que vous avez connu des francs encore plus anciens. En tout cas, moi, cette pièce de 1 franc me rappelle des souvenirs d'enfance. Et à l'époque, avec 3 pièces de 1 franc, peut-être même 2 ou 3 pièces de 1 franc, ce qui équivaut à 45 centimes d'euros aujourd'hui, avec 3 pièces, on pouvait par exemple acheter une baguette de pain en boulangerie. Et ce que j'aimerais montrer avec cette pièce, ce sont les inscriptions que l'on y trouve. Des inscriptions que j'ai toujours remarquées, mais dont je ne comprenais pas tout à fait le sens quand j'étais enfant. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la France. Ces 3 mots, je les apercevais à chaque fois que je sortais mes pièces de mon porte-monnaie. Il semblerait que ces mots apparaissent encore sur quelques euros, mais ce n'est plus si courant. De plus, aujourd'hui, nous utilisons de moins en moins la monnaie au profit de la carte bancaire et autres moyens de paiement électronique. Le premier mot de la devise française est très important pour un Français. Liberté. Liberté. La liberté est le mot d'ordre de notre siècle, je pense. Nous voulons avoir la liberté, la possibilité de faire ce que nous voulons, quand nous voulons, de la manière dont nous le voulons et avec qui nous voulons. Nous n'aimons pas que l'on nous dise que penser ou que faire. La liberté est censée nous libérer, justement, nous rendre plus épanouis, plus heureux. Et voilà que la Bible parle de prédestination, de plan de Dieu, de choix de Dieu pour l'humanité. Et même pour chacun de nous. La Bible parle d'un Dieu maître de notre vie. Il est le Seigneur, le Tout-Puissant sur notre existence. Entre la liberté si chère, qui nous est si chère, et la souveraineté de Dieu, il y a comme 2 concepts qui s'opposent. Si bien que la souveraineté de Dieu nous pose problème. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne cesse de parler de la souveraineté de Dieu, du plan de Dieu et de la prédestination dans de nombreux passages. Et souvent, on dit que ces passages sont difficiles à comprendre. sont-ils difficiles à comprendre ou bien difficiles à accepter? Je dirais que c'est un peu des deux. La souveraineté de Dieu est difficile à accepter parce qu'elle n'est peut-être pas souvent bien comprise. Je propose d'aborder ce thème à travers la lettre de Paul aux Éphésiens. Alors, je ne prétends pas du tout avoir tout compris. La souveraineté de Dieu demeure un mystère pour moi, mais un mystère que l'on peut tout de même approcher, il me semble. Nous lisons donc la première lettre de Paul aux Éphésiens. C'est ce que je vous propose de faire dans la série de prédications qui va venir, qui commence dès aujourd'hui et qui va se poursuivre dans les semaines à venir. Nous lisons aujourd'hui le chapitre 1, versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, il parle aux païens qui ont cru, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà donc un début de lettre bien dense. Paul dit beaucoup de choses. Il dit tellement de choses que l'on pourrait se perdre en cours de lecture et ne pas peut-être s'apercevoir là où il veut en venir. En tout cas, moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est tellement riche, je ne sais même plus, après avoir terminé le texte, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que dit-il dans cette introduction à cette lettre aux Éphésiens? Quelle est l'idée principale de ce début de texte? Il me semble que l'on peut résumer ce discours en une phrase. Alors, lorsqu'on résume, on trahit toujours toute la pensée du texte, mais pour simplifier, voici en une phrase ce qui me semble être l'idée principale. Nous sommes prédestinés à être comblés en lui pour célébrer sa gloire. Et je vous propose de développer cette phrase en trois parties. Tout d'abord, nous sommes prédestinés. Que signifie être prédestiné? Cela signifie que Dieu nous destine d'avance à être ses enfants. Cette idée va de pair avec la notion de souveraineté de Dieu, avec le fait qu'il a un plan, est qu'il réalise ce plan dans notre monde et dans notre vie. Cette notion de prédestination ou de volonté de Dieu apparaît dans pratiquement tout le texte, dans 7 versets sur 14. Par exemple, dans les versets 4 et 5, il nous dit « En lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Nous allons revenir sur ces quelques versets dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais présenter brièvement la notion de libre arbitre selon l'athéisme. Parce que parfois on dit « oui, on a quand même le libre arbitre », point d'interrogation. Mais il faut savoir que selon l'athéisme, le libre arbitre est un peu particulier. Alors il y a plusieurs types d'athéisme. Mais l'athéisme qui pousse jusqu'au bout son raisonnement affirme qu'en dehors du matériel, rien d'autre n'existe. En gros, l'athéisme écarte le monde invisible, le monde spirituel. L'athéisme qui va jusqu'au bout des choses dit « il n'existe que ce que l'on peut voir, mesurer, palper ». En dehors du matériel, rien d'autre n'existe. Autrement dit, les seules choses qui existent, ce sont les choses matérielles, les atomes, les molécules, les particules, etc. En revanche, Dieu n'existe pas puisqu'il n'est pas matériel. Les outils scientifiques ne permettent pas de percevoir Dieu. De même, l'âme n'existe pas puisque l'âme n'est pas matérielle. Et les athées qui vont jusqu'au bout de ce raisonnement sont partisans de ce que l'on appelle le déterminisme radical. Voilà, c'est un mot peut-être un peu savant. Cela signifie que tout est déterminé par avance. En effet, s'il n'existe rien d'autre que le matériel, alors tout ce qui a lieu dans l'univers, c'est un enchaînement de causes et d'effets. Il y a des causes qui produisent des effets, ces effets deviennent elles-mêmes des causes qui produisent d'autres effets. Et tout ce qui arrive n'est que cause et effet. S'il n'existe rien d'autre que ce qui est matériel, alors l'activité mentale n'existe pas. Autrement dit, la pensée n'existe pas. La pensée, la réflexion, les émotions seraient juste des réactions chimiques, des réactions de cause à effet, des réactions chimiques et électriques qui ont lieu dans mon cerveau et que je ne contrôle pas, puisque ce sont des réactions de cause à effet. J'ai juste l'impression de penser, j'ai juste l'impression de ressentir des choses. Mais finalement, ce ne sont que des réactions physiques contrôlées par les lois de la nature. Ce sont des séries de causes et effets. Cette branche de l'athéisme, partisane du déterminisme radical, affirme donc que nous n'avons aucun libre arbitre, puisque tout est déterminé par les lois de la nature. Puisque je ne contrôle pas ma pensée, c'est plutôt ma pensée qui me contrôle, puisque je ne contrôle pas mes choix, eh bien je n'ai donc aucun libre arbitre. Voilà la pensée athée poussée jusqu'au bout, le déterminisme radical. Et personnellement, je trouve que cette position est très cohérente, très cohérente. Je n'y adhère pas, mais je trouve qu'elle est cohérente. Si on retire Dieu de l'équation, alors ça donne ceci. Si les seules choses qui existent sont uniquement matérielles, sous forme de particules, d'atomes, alors effectivement, le spirituel n'existerait pas, Dieu n'existerait pas, l'âme n'existerait pas, la pensée n'existerait pas, le libre arbitre n'existerait pas. Tout cela pour dire que si nous pensons avoir une certaine liberté, cette liberté vient de nos choix. Et nos choix proviennent de notre pensée. Et notre pensée n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Elle est en tout cas du domaine invisible. Et parmi le monde invisible, nous croyons qu'il y a un Dieu créateur. Et en tant que créateur, il avait un plan lorsqu'il a créé. Il avait un projet de création. Ce projet, Paul nous le décrit en particulier dans les versets 4 et 5 que l'on peut résumer ainsi. Avant la création du monde, il nous a prédestinés dans son plan à être ses enfants. Est-ce que cela signifie que nous n'avons aucun choix, aucun libre arbitre? Si, nous avons bien une liberté, mais une liberté biaisée par notre nature humaine. Une nature humaine qui a tendance à rejeter Dieu, une nature humaine qui a tendance à s'écarter de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Pour Martin Luther, il serait plus juste de dire que nous n'avons pas vraiment de libre arbitre, mais plutôt un serf arbitre, c'est-à-dire une liberté esclave de notre nature humaine, de notre péché. Je prends un exemple tout simple, peut-être vous m'avez perdu. Je prends un exemple tout simple. C'est un exemple qui fonctionnerait avec mes enfants. Peut-être pas avec les vôtres, mais avec les miens, cela fonctionnerait. Imaginons qu'au moment du repas de midi, je mette sur la table deux choix de repas pour mes enfants. D'une part, une tarte au poireau, et d'autre part, un Happy Meal de chez McDo, c'est-à-dire un menu enfant avec hamburger frites. Et je leur dis, vous avez la pleine et totale liberté de choisir ce que vous voulez manger. Vous êtes absolument libre à 200%. Vont-ils faire un bon choix? Malgré leur liberté, malgré le fait que ma femme et moi, nous les sensibilisons à la nourriture saine, je sais déjà ce qu'ils vont choisir. Ils vont choisir le hamburger frites de chez McDo. N'est-ce pas pareil pour nous? Nous avons effectivement une certaine liberté, mais cette liberté reste esclave de notre nature humaine. Il n'y a qu'à regarder notre monde du XXIe siècle, avec tous ses progrès, pour nous rendre compte de ce que la nature humaine fait, produit, lorsqu'elle agit selon sa propre liberté. Et c'est là que Dieu intervient, et heureusement qu'il intervient, pour nous délivrer de cette nature humaine, de ce péché. Oui, Dieu s'immisce dans notre vie, et heureusement. Il a élaboré un plan, prévu bien longtemps avant notre naissance, afin de nous amener à lui, pour être en relation avec lui. Ainsi, ce n'est plus notre nature humaine qui nous dirige, mais c'est Dieu. J'en arrive à mon deuxième point, qui est la deuxième partie de la phrase « Nous sommes prédestinés à être comblés en lui ». L'expression « en lui » apparaît également dans de nombreuses fois dans le discours de l'apôtre. Cette expression « en lui » apparaît 5 fois dans tout le texte, 5 fois sur 14 versets. Ce que Paul veut dire, c'est que toutes les bénédictions, toutes les grâces de Dieu se réalisent en Jésus, dans une relation avec Jésus. Jésus nous comble de sa grâce, selon le verset 6. Grâce à lui, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Nous sommes unis à Dieu. Nous sommes en quelque sorte rescapés. Nous étions comme naufragés, ne pouvant nous sauver nous-mêmes, et Dieu est intervenu pour nous secourir. Prenons une autre illustration pour montrer ce que Jésus a fait pour nous. Imaginons que vous décidiez d'élaguer les arbres de votre jardin, si vous avez des arbres à élaguer et si vous avez un jardin. Imaginez que vous avez des arbres à élaguer dans ce jardin. Mais que par mégarde, une grosse branche tombe chez le voisin. Et il se trouve que cette grosse branche tombe sur la voiture de votre voisin. Une belle BMW toute neuve, totalement abîmée à cause de votre branche tombée. Vous appelez l'assurance, mais c'est votre faute, elle ne prend pas en charge ses frais. Et vous n'avez pas les moyens de faire réparer cette voiture. Le propriétaire de la voiture serait en droit d'obtenir réparation. Et cette situation pourrait peut-être vous mettre en difficulté et même vous endetter. Mais au lieu de demander réparation, ce voisin décide, dans sa bonté, de payer lui-même les réparations à votre place, de prendre sur lui les frais, de racheter votre erreur. C'est ainsi que Jésus agit envers nous. Parfois, j'entends la question, pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement pardonner, sans passer par Jésus ? Pourquoi Jésus est-il nécessaire ? Pourquoi, dans sa lettre, l'apôtre Paul sans cesse précise « en lui, en Christ, en Jésus ». Y a-t-il vraiment besoin de Jésus ? Eh bien oui, car l'humanité a brisé non pas une voiture, mais l'humanité a brisé la relation avec Dieu. Et pour réparer cette relation brisée, cette relation abîmée, il faut que quelqu'un paye les réparations, tout comme il fallait payer les réparations de la voiture cassée. Ce que Jésus a payé, il l'a payé non pas en argent, il l'a payé de sa vie. Verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et quel est le but de tout cela ? Pourquoi Dieu nous sauve-t-il de notre péché ? L'apôtre Paul le répète comme un refrain dans sa lettre. Il le dit 3 fois, verset 6, verset 12, verset 14, pour célébrer la gloire de sa grâce. Nous sommes prédestinés, premièrement, à être comblés en lui, deuxièmement, pour célébrer sa gloire. Troisième point. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu, la manifestation glorieuse, justement, de Dieu. Dieu se manifeste par sa bonté, par sa grâce, par son pardon, par son Fils Jésus, par ses bénédictions, etc. C'est tout cela, sa gloire. Nous sommes sauvés pour célébrer la gloire de Dieu, pour en témoigner, pour nous en réjouir, pour le louer, pour l'honorer. C'est le but, c'est l'objectif de notre vie. C'est pour cela que Dieu nous sauve. Une fois de plus, cela est à l'opposé des objectifs des êtres humains que nous sommes, êtres humains qui sont plutôt égocentriques. Je ne veux pas dire que tous les humains sont égoïstes, mais égocentriques, centrés sur l'homme. Une fois de plus, cela, la gloire de Dieu, célébrer la gloire de Dieu, c'est l'opposé de célébrer notre propre gloire finalement. C'est pour cela que nous tenons tant à notre liberté, parce que nous voulons avoir un sentiment de toute puissance. Nous voulons être maîtres de notre vie, être au contrôle de notre existence. Mais Dieu nous a plutôt créés pour célébrer sa gloire à lui. Comment cela devrait se manifester concrètement ? Paul nous le dira, enfin nous donnera plus d'éléments pour comprendre cela dans la suite de sa lettre. Nous le verrons donc dans les semaines à venir. Cela dit, célébrer sa gloire, ce n'est pas naturel. Célébrer la gloire de Dieu, c'est souvent l'inverse de ce que nous voulons faire. C'est pour cela que Dieu intervient dans notre vie pour nous y aider. Nous cherchons souvent à nous servir nous-mêmes à travers les plaisirs éphémères qui nous font oublier la dure réalité de ce monde et de la vie. Nous voulons être libres et surtout ne pas nous faire imposer des choix. C'est un souhait tout à fait légitime de vouloir être libre, mais comme nous l'avons vu, notre liberté sans Jésus, c'est une illusion de liberté. Entre la tarte au poireau et l'hamburger frite, entre glorifier Dieu et se glorifier, nous avons tendance à faire le second choix. Et de manière paradoxale, c'est en nous attirant à lui que Dieu nous rend vraiment libre. C'est ma conclusion et c'est simplement le verset 14. Ça s'affiche dans la conclusion. Verset 14, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'apôtre parle de la libération de ce que Dieu s'est acquis. Cela peut nous paraître contradictoire, mais cela ne l'est pas. Dieu nous rachète, Dieu nous sauve, Dieu nous prédestine afin de nous rendre vraiment, véritablement libres. Sans Jésus, notre liberté est soumise à la nature humaine. Mais en Jésus, en relation avec lui, nous avons une vraie liberté, celle de choisir le Sauveur et de le suivre. Cette liberté nous rend capables de glorifier Dieu et de nous en réjouir. Notre bonheur ne se trouve pas dans une glorification, dans notre glorification, mais dans celle de Dieu. Oui, la liberté nous rend plus heureux, mais la liberté en Jésus et pas en nous-mêmes. Je vous invite à prendre un temps de silence pour recevoir, méditer, continuer de réfléchir à ces paroles de l'apôtre Paul. Et après ce temps de silence, nous allons chanter Abba Père. Prenons un petit temps.